l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bonjour Marie Toussaint.
Bonjour.
C'est quoi notre affaire à tous ?
Notre affaire à tous, c'est une association qui a été créée il y a près de 3 ans maintenant et qui réunit des juristes, mais aussi des tas de militants d'horizons divers qui veulent défendre le climat et l'environnement et œuvrer ensemble à la justice climatique et environnementale. Qu'est-ce qu'on entend par justice climatique et environnementale ? On l'entend au sens propre d'abord, parce que notre objet de mobilisation, c'est le droit en tant que pacte social, en tant que ce qui nous relie les uns aux autres. Et donc c'est bien ça qu'on veut changer, qu'on veut mobiliser aujourd'hui pour préserver la planète. Et puis une volonté de préserver notre environnement en ce qu'il nous permet les uns les autres, les unes les autres, de vivre ensemble. Et de dire aussi que si on détruit notre environnement, ce qu'on va faire, c'est rendre cette planète invivable pour un certain nombre d'entre nous, qu'il y en aura peut-être qui survivront et qui pourront encore y vivre dans les générations à venir, mais que certains, et notamment les plus vulnérables, ne pourront plus y trouver leur place. Et donc c'est dans ces deux sens-là qu'on entend notre action pour la justice climatique et environnementale. À travers le monde, de plus en plus de collectivités se mobilisent sur les questions du climat. Elles se mobilisent parce qu'elles agissent, par exemple à travers la promotion du vélo ou des repas végétariens dans les cantines. Elles se mobilisent aussi de plus en plus sur la scène diplomatique, en élevant la voix aux côtés des États pour pouvoir pousser à des décisions plus ambitieuses concernant la protection du climat ou de l'environnement. Et elles se mobilisent aussi en disant « le réchauffement climatique a un coût ». Nous, sur les territoires, on subit le réchauffement des températures, on doit adapter nos infrastructures de santé mettant en place des visites chez les personnes âgées, des points d'eau, des espaces verts, en agissant sur les transports. Et donc, en fait, on a de véritables impacts territoriaux du réchauffement qui viennent toucher l'ensemble des secteurs, qu'ils soient agricoles ou la vie urbaine. On sait notamment que les grandes villes seront les plus frappées par les hausses de température jusqu'à 7 ou 8 degrés. D'ici la fin du siècle, en fonction des études au niveau international. La justice climatique, quand on la prend en sens large, c'est-à-dire comprenant les inégalités, ce qu'on appelle Nord-Sud jusqu'à maintenant, c'est-à-dire entre les pays, entre les différents États et au sein des États, parce que ça touche également le cœur des États, ça nécessite que chaque État prenne sa part de responsabilité dans la protection des communs, dans la protection du climat, de la biodiversité. Ça peut se faire de différentes manières. On prône effectivement la création d'un droit international à travers un nouveau traité contraignant, à travers par exemple l'inscription des écocides au statut de la Cour pénale internationale pour qu'on puisse juger partout à travers le monde des plus graves atteintes à l'environnement, mais aussi à travers cette belle initiative qui est le pacte international contraignant pour le droit de l'environnement qui est porté en ce moment par la France. Mais il y a d'autres modalités d'action dont toutes les citoyennes et tous les citoyens peuvent se saisir, qui est le fait de faire émerger un droit planétaire par le bas, c'est-à-dire en agissant chacun dans nos États pour que nos États agissent au maximum de leur capacité pour préserver les communs, sauver le climat et lutter contre les inégalités socio-environnementales. Et donc, nous, on le porte en France pour changer notamment la Constitution française pour que la place accordée à la protection de l'environnement soit supérieure à celle qui lui est accordée aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Sur le projet de loi hydrocarbures, de sortie des hydrocarbures, donc de l'exploitation pétrolière, du gaz et des énergies fossiles, qui a été présenté il y a un peu plus d'un an par Nicolas Hulot au Parlement français, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui sont les deux plus grandes juridictions de notre pays, on dit, mais il existe des droits et des libertés économiques qui font qu'on ne peut pas demander aujourd'hui aux entreprises ayant investi dans les énergies fossiles de s'arrêter trop vite parce qu'ils ont des bénéfices à préserver et qu'on leur doit bien ça, quelque part. Mais tout ce que nous disent les scientifiques et même le GIEC, donc qui est l'institut intergouvernemental, donc public, dont les données sont reconnues par l'ensemble des États de la planète, ils nous disent quoi ? Ils nous disent, si on veut limiter le réchauffement, si on veut garder la Terre vivable pour l'ensemble de ses habitants, il faut laisser plus des trois quarts des énergies fossiles aujourd'hui connues sous le sol. Donc la France dit, en fait, vous avez encore le droit d'aller chercher de nouveaux hydrocarbures. Et donc ça, pour le changer, il faut que la Constitution française impose la protection de l'environnement comme l'un des principes majeurs. Aujourd'hui, il y est inscrit, mais ça passe encore derrière les droits et libertés économiques. Donc on mène effectivement un plaidoyer sur cette question-là pour qu'on puisse renforcer la place de l'environnement. On travaille avec une organisation qui s'appelle Our Children's Trust aux États-Unis, qui est actuellement en procès dans ce qu'on appelle l'affaire Juliana, pour protéger le droit des jeunes Américains à un climat stable. On est en lien avec Terrusticia en Colombie, où 20 jeunes ont fait condamner la Colombie pour ne pas lutter assez contre le réchauffement climatique et ont obligé l'État colombien à mettre en place notamment des plans de lutte contre la déforestation. On est en lien avec Urgenda aux Pays-Bas, qui a fait condamner les Pays-Bas pour que ceux-ci élèvent leurs ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on est de plus en plus nombreux autour de la planète à se mettre en réseau et à œuvrer ensemble pour que ce droit planétaire puisse émerger.
Alors là, vous venez de lancer une campagne justement assez intéressante qui va dans ce sens. C'est la campagne où finalement vous avez accompagné d'autres associations, dont notamment l'association des écomères et aussi de 13 collectivités territoriales. Vous avez interpellé Total pour exiger un respect de l'accord de Paris. Alors déjà, peut-être, j'aimerais bien avoir votre présentation de cette action collective.
Eh bien, ces collectivités françaises avec lesquelles nous avons lancé la campagne « Les territoires qui se défendent », elles ont indiqué une troisième voie dans ce mouvement pour la justice climatique envers les acteurs privés, en disant « Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas ce qui causait le changement climatique et ce qu'il faudrait faire pour le prévenir et préserver ce monde vivable pour chacune et chacun ». Et donc, on leur demande, en s'appuyant sur une loi récente, qui est la loi sur le devoir de vigilance en France, d'être vigilants, d'être loyaux, d'être prudents, et d'agir en conséquence, c'est-à-dire de réfléchir à quels sont les risques climatiques que ces entreprises font courir à l'ensemble de l'humanité, et aux manières et aux outils dont elles peuvent changer leur comportement pour pouvoir les protéger. Et donc, c'est exactement ce que ces collectivités ont demandé à Total, c'est de dire, nous sommes touchés par les actions que vous mettez en place à travers le monde, par l'exploration et l'exploitation pétrolière. Et on sait aujourd'hui que vous devez cesser l'exploration et un certain nombre de vos activités. Et on vous demande de rediriger complètement vos activités d'exploitation du pétrole et du gaz vers les énergies renouvelables.
Finalement, quand on voit les accords de Paris suite à la COP21, on a vu quand même pas mal de fausses solutions qui sont apparues comme les solutions miracles, notamment la géo-ingénierie pour sauver le climat avec des choses complètement incroyables. Vous, quel est votre point de vue, Marie Toussaint, par rapport à ces solutions émergentes des accords de Paris ?
Donc l'accord de Paris établit une espèce d'accord de la communauté internationale de dire il faut limiter le réchauffement à 1,5 ou au pire 2 degrés. Mais donc c'est bien l'objectif d'1,5 qui est choisi. Face à ça, on a besoin d'une contribution de l'ensemble des acteurs de la société, des États, mais aussi du secteur économique. Et une partie, effectivement, du secteur économique, pour qui ce sont des vraies solutions et non pas des fausses solutions, mais se sont dit « super, on va pouvoir trafiquer l'atmosphère, rediriger les nuages pour pouvoir effectivement capter plus de CO2 et donc contribuer à limiter le réchauffement climatique ». Ça, c'est la géo-ingénierie. On a à côté ceux qui défendent encore l'énergie nucléaire, qui est pourtant extrêmement coûteuse, et de plus en plus coûteuse, et donc prix explose, notamment par rapport aux énergies renouvelables, mais qui surtout met en danger l'avenir de l'humanité. Et on a pu le voir à la fois à Tchernobyl ou à Fukushima, tous les impacts que cela cause et toutes les détériorations que cela cause à l'être humain. En 2009, un groupe de chercheurs de l'université de Stockholm met en place ce qu'on appelle les limites planétaires et donc des seuils à ne pas dépasser en matière d'ozone, de pollution de l'air, d'océan, etc., etc. En 2015, ils mettent à jour leurs limites planétaires en introduisant une dixième. Ce sont toutes les nanotechnologies, nanoparticules ou technologies de type géo-ingénierie que l'être humain introduit dans l'atmosphère. On ne sait absolument pas quelles sont les conséquences que ces nouvelles substances que nous introduisons dans l'atmosphère vont avoir comme impact sur les populations, sur les écosystèmes. Quand on a commencé avec les pesticides, on s'est dit « bon, bah, l'agent orange a détruit les écosystèmes au Vietnam, mais on va réussir à le modifier un peu et à en faire quelque chose de pas toxique ». On se rend compte aujourd'hui que toutes ces substances que l'être humain crée de toutes pièces viennent bouleverser la nature et, par ricochet, bouleverser aussi ce qui compose l'être humain, vient changer notre ADN. Et donc, ce sont ces solutions-là qu'on appelle de notre côté les fausses solutions et dont on espère effectivement qu'elles ne seront pas développées. On l'espère parce que ce que nous dit le GIEC quand il établit plusieurs trajectoires pour respecter cette barrière des 1,5 degrés, parmi ces trajectoires-là, il y en a qui ne nécessite aucun recours, ni à la géo-ingénierie, ni au nucléaire. Et que ça nécessite effectivement qu'on change nos modes de consommation, notamment qu'on consomme beaucoup moins d'énergie. Ça veut dire aussi en France notamment la rénovation de nos logements. Et on sait qu'il y a 11,5 millions de Français qui vivent dans la précarité énergétique. Donc ça permet aussi de réduire les factures, notamment des plus pauvres, en changeant nos modes d'agriculture, en consommant moins de viande, en allant vers les renouvelables, en arrêtant avec l'avion et les gros paquebots pour préférer les transports en commun. Eh bien, en agissant dans tous ces domaines-là, en réalité, on peut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, c'est bien cette trajectoire-là que nous promouvons.
Là, on peut parler presque de lobbying qui a pu avoir lieu au moment des accords de Paris, quand même. Parce que vous, en essayant de changer au sein de votre association Notre Affaire à Tous, le droit international et le droit de l'environnement en France, vous devez bien constater que, voilà, pour changer le droit, il y a aussi un sacré boulot de contre-lobbying à faire.
On a choisi les termes de droit planétaire parce qu'il y a un autre droit mondial qui est en train d'émerger aujourd'hui, qu'on appelle dans la doctrine le droit global, qui tient compte à la fois d'un droit international décidé par les États, mais aussi du droit des contrats et des tribunaux d'arbitrage privés ou publics, mais qui sont ces tribunaux qui viennent défendre les intérêts des entreprises et donc les droits et libertés économiques dont on parlait tout à l'heure face à l'intérêt général. Défendre le droit planétaire, ça veut dire effectivement laisser plus de place aux citoyens et à la nature dans les décisions qui sont prises, aussi bien que dans la capacité de saisir les tribunaux et de défendre l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt public. Effectivement, on observe aujourd'hui beaucoup de lobbies. C'est le cas, ça a été le cas sur les accords de Paris. C'est le cas en France beaucoup sur l'industrie nucléaire, hein, où, contre toute logique, on continue à défendre l'énergie nucléaire face aux énergies renouvelables. Et puis sur un tas d'autres sujets qui détruisent l'environnement. Et on voit notamment que beaucoup d'argent qui passe dans les paradis fiscaux vont détruire l'écologie, les forêts, vont au trafic d'espèces. On sait aussi que le trafic d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui la plus grande source de financement des groupes armés au niveau international. Donc on voit bien qu'il y a un conglomérat, quelque part, de gens qui se mettent ensemble pour défendre leurs profits contre l'environnement et contre les intérêts des êtres humains.
Et alors vous, comment vous organisez justement pour changer ça, pour limiter leur influence et finalement changer ce droit international ?
Il y a une très belle mobilisation qui est née aux États-Unis il y a presque un an maintenant, avec des dizaines de milliers de lycéens sur un mouvement qui s'appelle « This is Zero Hour ». C'est l'heure zéro ou c'est l'heure du départ finalement, et qui ont mis des dizaines de milliers de lycéens dans les rues début juillet, qui se sont associés aux plaintes qui étaient portées dans l'ensemble des États fédérés contre l'État pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un peu ce qu'on est en train de voir en France, avec ces grandes marches qui sont nées à partir de début septembre, qui ont réuni des centaines de milliers de citoyens. Et derrière, un nombre croissant de citoyennes et de citoyens français qui s'engagent soit dans des actions individuelles, soit dans des actions collectives, qui sont un levier bien plus important pour protéger l'environnement. On sait qu'en changeant de banque, on sait qu'en fermant l'eau du robinet, on sait qu'en allant dans des AMAP, en prenant des produits locaux plutôt que des produits de la grande distribution, on peut effectivement contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et on sait aussi qu'en saisissant les tribunaux, on peut faire garantir nos droits. Et donc, c'est l'ensemble de ces initiatives que nous soutenons. Et là où nous prenons notre part du combat, c'est effectivement sur ces questions de justice et de droit, de changement de la loi et d'une nouvelle alliance que nous tisserions avec les avocats et avec les juges pour pouvoir protéger notre environnement.
On reste quand même positif, Marie Toussaint ?
On reste positif, d'abord parce qu'il y a un nombre croissant d'acteurs qui se lèvent pour dire qu'il faut respecter les accords de Paris. Aux États-Unis, de Donald Trump, c'est une centaine de collectivités et d'entreprises qui ont dit « Mais nous, quelle que soit la décision de notre président climaticide, nous allons œuvrer pour que l'accord de Paris soit tenu et soit respecté. » C'est ce qu'ont dit ces 13 collectivités lorsqu'elles ont effectivement interpellé Total sur son comportement par rapport à l'exploration et à l'exploitation du pétrole. Et puis on voit aussi des victoires arriver. On espère demain la France. Et en tout cas, ces petites victoires, elles essaiment partout autour de la planète. Grâce finalement à Internet qui a sa propre pollution induite, mais on est en lien tous les uns avec les autres. Et il y a une vraie prise de conscience planétaire que nous faisons partie du même monde et qu'il nous faut absolument œuvrer ensemble pour protéger cette planète. Et donc oui, nous avons l'optimisme de la volonté et on pense qu'on peut y arriver. To another bar, wish my dreams were.
Du coup, en fait, par rapport au racisme environnemental, qui est une notion qui, effectivement, a été prise en considération aux États-Unis assez tôt, parce qu'on a vu que dans certains quartiers pauvres, en fait, on retrouvait systématiquement les déchetteries, les usines polluantes. Enfin, c'était vraiment très, très marquant. Aujourd'hui, en France, est-ce qu'on commence à prendre conscience de ça ?
Il faut bien comprendre que la question des inégalités socio-environnementales est au cœur des enjeux du siècle dans lequel on se trouve. En Grande-Bretagne, 16% des plus pauvres vivent en zone inondable, 1% seulement des plus riches. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, on voit effectivement que 76% des riverains des centrales à charbon sont des non-blancs. Et en France, le seul chiffre dont on dispose aujourd'hui, c'est le fait, il a été produit par Éloi Laurent, un économiste français, c'est le fait que quand on a 1% de population immigrée en plus dans une collectivité, alors on a 30% de chances de plus de se trouver à côté d'une usine telle qu'un incinérateur. Aujourd'hui, la recherche en France ne travaille que très peu sur ces sujets-là parce qu'il n'y a pas de crédit public consacré à la recherche sur ces sujets. Le sujet de la santé est celui qui est peut-être le plus documenté, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Alors, il y a un ouvrage remarquable de Lucas Chancel qui a été publié qui s'appelle « Insoutenables inégalités » qui s'intéresse à la question des inégalités énergétiques, mais on a encore effectivement beaucoup de chemin à faire dans la connaissance, la reconnaissance des inégalités induites, que ce soit en matière de racisme environnemental ou d'écart homme-femme ou d'écart entre pauvres et plus riches. Pour travailler là-dessus, avec notre affaire à tous, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise à la fois le monde académique, le monde de la recherche, qu'on mobilise également la presse pour leur permettre de traiter et les inciter à traiter ces sujets-là. Et puis les actions en justice, elles sont parfois portées par des individus, par des citoyens, comme par exemple la famille Féchet, qui s'est alliée à 9 familles de l'Union européenne et du monde pour assigner en justice l'Union européenne pour inaction climatique et violation de leurs droits. La famille Féchet, c'est une famille de lavandiculteurs de la Drôme, un territoire sur lequel le réchauffement a été plus élevé que la moyenne générale autour de la planète, c'est-à-dire qu'il s'élève à plus de 2 degrés, voire 2 degrés 5, et qui a vu ses revenus sur les 10 dernières années diminuer de 44%. Si bien qu'ils ont dû, en plus de leur exploitation de lavande, ajouter des activités pour pouvoir maintenir la rentabilité de leur exploitation. Et donc ce que la famille Féchet indique, c'est qu'on viole à la fois leur droit à la propriété, leur capacité de transmettre leur propriété et leur exploitation à leurs enfants, mais aussi leur droit économique, pour le coup, parce que ça peut aussi jouer dans ce sens-là, et puis leur droit à la santé, parce qu'effectivement, on les empêche de jouir d'une santé, d'un climat stable. Ces exemples-là, ces citoyens-là, ils sont particulièrement courageux parce qu'ils sont pionniers. Ce qui leur permet d'agir, c'est d'être à plusieurs, c'est de pouvoir se dire on est plusieurs à vivre dans cette situation-là. Et ils nous aident à sensibiliser les Françaises et les Français et les citoyennes et les citoyens du monde pour dire que le changement climatique, c'est pas seulement demain, c'est pas seulement théorique, mais c'est aujourd'hui et ça vient changer fondamentalement la manière dont on vit. Et évidemment, les plus riches vont pouvoir s'en sortir. On voit par exemple qu'au Nigeria, au large de Lagos, qui est à moins d'un mètre au-dessus de la mer, les plus riches sont en train de ponctionner dans la mangrove, donc là où vivent les paysannes et les paysans, pour aller construire une île artificielle façon Dubaï, où ils pourront aller lorsque la ville sera submergée par les eaux, et les pauvres resteront évidemment à quai. Mais que d'autres sont en train de faire ça en mer du Nord, en Europe, et qu'on voit des stratégies avec, par exemple, Elon Musk ou Jeff Bezos, qui sont les plus riches de la planète et qui prévoient d'aller vivre dans une capsule ou sur une autre planète dans l'espace. Donc on voit bien que les plus pauvres vont être ceux qui vont être condamnés à rester sur Terre et qu'il faut agir pour eux. Et donc cette question du racisme environnemental, qu'il soit en termes de couleur de peau ou plutôt de secteur de la société auquel on appartient, est en train d'émerger et a vocation à se développer et à grandir sur nos territoires à l'heure actuelle.
Et donc sur la question des migrations liées au changement climatique, j'imagine que vous en avez largement parlé ces derniers temps. Quelle est la position justement de notre affaire à tous, parce que vous travaillez vous spécifiquement justement sur les inégalités environnementales?
On sait que le réchauffement climatique et les tensions générales au-delà du climat sur les ressources vont se développer et vont mener à des vagues migratoires, des flux migratoires de l'ordre de 250 millions de personnes d'ici 2050. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces vagues, elles auront d'abord lieu entre pays du Sud, voire au sein des pays du Sud. Par exemple, le Bangladesh va être clairement submergé par les eaux et les populations vont suivre d'abord en remontant sur les côtes et non pas en venant jusqu'aux portes de l'Europe ou des États-Unis ou du Japon et de l'ensemble de ces pays développés. Une petite partie arrivera jusqu'à nos côtes, mais en tout cas, Il est de notre devoir, a fortiori puisque nous avons pollué la planète plus que les autres États, et notamment plus que les États qui vont souffrir en premier lieu du réchauffement climatique, de mettre en place des systèmes pour les accueillir de manière sûre. Alors, soit ça passe par la mise en place effectivement d'un statut de réfugié climatique, c'est ce que nous demandons, soit ça passe par le fait de reconnaître que ceux qui fuient les guerres liées aux tensions sur les ressources, notamment sur l'eau, où on voit des guerres qui se déploient, ou à la montée des eaux, ou à la perte d'eau potable, eh bien, sont finalement des victimes politiques, puisque les politiques savaient et qu'ils n'ont pas agi. Et donc, soit dans un cas, soit dans l'autre, en tout cas, il nous faut avancer pour permettre à la fois au droit de reconnaître la nécessité de les accueillir, mais aussi permettre que toutes celles et tous ceux qui travaillent à adapter leur territoire pour pouvoir rester sur leur territoire, puisque chacun a envie de rester chez soi en réalité, puisse le faire et puisse avoir les outils pour le faire. Et donc ça passe notamment par cette question de faire payer les pollueurs pour que les pollueurs contribuent, que ce soit des États ou des multinationales, effectivement, à permettre à ces populations de pouvoir rester sur place et se construire un monde agréable, un monde où bien vivre, là où ils le souhaitent.
Oui, et sur le droit international, donc effectivement, espérer qu'on arrêtera de délocaliser nos activités polluantes, donc des filiales de nos grandes entreprises dans ces pays-là, parce que là, on peut vraiment revenir sur le racisme environnemental, se dire que voilà, ces normes environnementales qu'on s'est mises chez nous, on conduit à des délocalisations qui finalement respectent pas du tout l'égalité entre les peuples, quoi.
Je vais raconter une petite anecdote qui est pourtant loin d'être anecdotique. La France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre sur les 20 dernières années. Malheureusement, elle les augmente continuellement depuis la signature de l'accord de Paris. Tout comme l'Union européenne, on peut déjà voir là une première contradiction. Mais au-delà de ça, grâce quelque part aux délocalisations dont vous parlez, on a pu aussi délocaliser ces émissions. Et finalement, quand on regarde l'empreinte écologique des Français, et notamment l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions totales que les citoyennes et les citoyens français dont nous sommes responsables, celles-ci augmentent en constance depuis les années 80-90, comme elles augmentaient auparavant. Et donc on voit bien que, par un jeu finalement comptable, on réduit les émissions produites sur le territoire, mais qu'on les délocalise, et donc que par ailleurs, on délocalise aussi l'emploi, et qu'on détruit l'activité sur le sol français, tout en délocalisant emploi et pollution à l'extérieur. Et donc il faut qu'on mette en place des obligations, ça c'est ce qui est établi par le droit international, par l'accord de Paris, de réduire nos émissions produites sur place, mais il faut aussi construire de nouveaux outils pour compter ce qu'on appelle ces émissions importées, c'est-à-dire toutes celles qu'on importe à travers nos produits en France, et pouvoir agir véritablement sur la préservation des communs. Peut-être pour finir, et ce qui touche aussi au débat actuel sur la question de la hausse du prix des carburants et du coup de la manière dont ça touche en disproportion les catégories les plus pauvres. En fait, la taxe carbone actuelle, si on la taxe seulement en France, et telle qu'elle est construite, elle vient toucher effectivement de manière disproportionnée les plus pauvres, mais on sait aussi que si on mettait en place une taxe carbone aux frontières, on viendrait agir plutôt sur les plus riches que sur les plus pauvres. Donc c'est l'une des difficultés de l'absence d'une telle taxe à l'heure actuelle. Ce qu'on appelle les émissions importées pèsent pour les 3/4 du budget des plus riches et seulement pour les 2/3 des budgets des plus pauvres. Donc on voit bien qu'en fonction de là où on positionne cette fiscalité environnementale, on vient toucher soit les plus vulnérables, soit faire le choix effectivement de toucher en proportion ceux qui ont le plus de moyens de subsistance. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une problématique qui émerge, à la fois effectivement chez les communautés autochtones, d'un peu partout à travers le monde, ou dans les ZAD, où on a le slogan « Nous sommes la nature qui se défend ». À travers le monde, ce sont les populations les plus pauvres qui subissent les produits toxiques, en disant que si on cessait de délocaliser l'emploi et donc les pollutions, elles seraient sans source de revenus finalement. En fait, ce qu'on observe, c'est que ce soit avec le Rana Plaza, qui est cet établissement qui s'est effondré pour nous fournir des produits, vêtements toxiques à bas coût, avec des marques européennes et des marques américaines qui étaient présentes partout, que ce soit en Chine, ou pour l'extraction des métaux rares qui sert à nos téléphones, à nos tablettes, à nos ordinateurs. Là-bas, il y a des pluies toxiques qui viennent s'abattre sur les travailleurs et donc miner leur santé. En fait, si on travaillait partout pour se rattacher à la Terre, si on travaillait partout pour respecter les limites planétaires, on réduirait considérablement le commerce international, mais on recentrerait l'emploi, le travail, sur ce qui est de l'ordre du vivrier, c'est-à-dire sur la production d'une alimentation locale, sur la production locale de textiles, etc. Et en réalité, c'est un modèle de production et de consommation qui est un modèle qui a pollué notre planète, détruit notre planète, qu'il faut complètement changer, mais qu'on peut tous ensemble se mettre sur un rythme égalitaire d'amélioration des conditions de vie et qui aille de pair et qui rime avec la création d'emplois pour tous. Et ça, on le voit avec des études approfondies qui ont été menées sur les questions agricoles. On est capable aujourd'hui, par l'agroécologie, de nourrir jusqu'à 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc on n'est pas à la fin de la production et on ne mourra pas de faim si on sort des pesticides. On peut nourrir la population de la planète et même plus, tout en créant de l'emploi local, puisque l'agroécologie, c'est justement plus d'emplois sur les territoires. Et c'est la même chose pour l'agriculture ou pour l'ensemble des domaines d'activité actuels.
Pour ajouter un dernier point, aujourd'hui, autour de la planète, on a 10% des populations les plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, et en miroir, 50% de la population qui n'émet que 10% des émissions de gaz à effet de serre. Ça a été, pendant de très nombreuses années, les pays développés, les pays occidentaux, qui ont émis ces émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, ce qu'on repère, c'est qu'il y a une transnationalisation des pollutions. Et qu'à l'heure actuelle, les plus riches qui polluent cette planète sont composés à 46% d'Américains, 16% d'Européens, 12% de Chinois, et qu'ensuite, ça se répartit un peu partout, avec des Indonésiens, avec quelques Africains, avec... voilà. Et le droit planétaire qu'on veut construire, cette justice climatique et environnementale qu'on veut construire au niveau mondial, elle est importante parce que plus ça va, plus ce sont les plus riches dans une solidarité mondiale qui détruisent nos conditions de vie. Et donc plus nous, citoyens du monde, nous devons réaffirmer nos droits et notre solidarité face à ces pollueurs-là. Et c'est plus simplement une question d'État, finalement. Il faut qu'on réinvente complètement une justice qui ne repose pas que sur les accords et la diplomatie interétatique, mais qui repose sur ces nouvelles alliances entre les citoyennes et les citoyens, avec les associations, avec les collectivités, pour construire ce nouveau régime de responsabilité.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.